Satellite, la radio autour de Lux. Le Dami et l'onde porteuse présentent une série de 8 épisodes au cœur des défis de cette vaste planète, des industries culturelles et créatives. Épisode 4, la technologie au service du patrimoine.
On imagine souvent que patrimoine et technologie sont deux domaines très différents. L'un renvoie au passé, l'autre à l'avenir. Dans un élan de création et d'innovation, Eritech a décidé d'utiliser la technologie au service du patrimoine en organisant des forums entre professionnels. Le but étant de réfléchir à comment valoriser notre héritage culturel grâce aux nouvelles avancées technologiques. Bonjour Eric.
Bonjour.
Eric Pacheco, président d'Eritech.
Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les forums Eritech? Comment est née cette société?
Alors avant la société, effectivement, Anthony, vous parlez de Forum Eritech et c'est vrai que tout a commencé autour d'un événement. Mais cet événement, c'était une façon pour Sébastien Cotte et moi-même, qui est aujourd'hui le directeur général d'Eritech, dont je suis le président, de vérifier en fait s'il y avait, j'aime bien utiliser cette expression, un trou dans la raquette, dans la connaissance des nouvelles technologies, comme vous venez de le dire dans votre lancement, des nouvelles technologies pour les gestionnaires de patrimoine, qu'ils soient privés ou publics, pour valoriser, pour conserver, pour préserver leur patrimoine. Et d'un certain nombre de territoires qui n'ont pas forcément accès aux nouvelles technologies, et de leur demander si c'était quelque chose de sensible pour eux, pour proposer à leur public les choses autrement, pour leur permettre effectivement d'être à la page, d'avoir aussi une offre qui soit toujours autant attractive pour notamment les touristes, parce qu'on a la chance d'être une des premières destinations mondiales en termes de tourisme. Et en fait, la réponse a été, de la part des gestionnaires qu'on a réunis sur le premier forum Eritech qui a eu lieu en octobre 2020, la réponse a été oui, il y a un trou dans la raquette. Il nous manque beaucoup de choses aujourd'hui pour bien comprendre cet univers. Et pour ça, effectivement, il fallait aller plus loin. Donc on est parti des forums, on en a fait 4, pour effectivement se rendre compte qu'il fallait aller plus loin. Et d'où l'arrivée, et Anthony, vous l'avez dit, de la création de cette société qui s'appelle naturellement Eritech. C'est héritage et technologie, c'est assez immédiat. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont construites. Et la société est arrivée en mars 2023. Donc c'est une société toute neuve.
Quelles sont vos ambitions réelles avec ce projet?
L'ambition, elle est assez simple. C'est de répondre convenablement, j'allais dire, à l'hypothèse de travail qu'on avait donc détectée sur les forums. Et de mettre en place une plateforme de service, en fait. Et c'est pas si simple que ça, parce que pour mettre en place une plateforme de service, il faut être capable de bien, j'allais dire, compartimenter les besoins et les réponses aux besoins des gestionnaires de patrimoine. Donc on a décidé de travailler sur cette plateforme de service avec deux hémisphères, j'allais dire, pour que les choses soient simples pour les auditeurs, de former les gens d'un côté et de les amener à monter en compétences. Le deuxième hémisphère, c'est l'accompagnement de projet, donc de la mise en place de stratégies patrimoniales et l'accompagnement dans la numérisation des patrimoines. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir de numérique sans stratégie. En fait, le numérique est un outil, je le rappelle aux auditeurs, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. On fantasme beaucoup sur le numérique, en fait, parce que voilà, c'est toujours très... Y a toujours un effet waouh avec le numérique qui est, vous savez, le climax qu'on ressent quand on chausse un casque et qu'on rentre dans une expérience de réalité virtuelle ou quand on est dans un parcours sonore immergé dans la belle voix d'un comédien qui vous raconte le patrimoine d'une ville ou d'une région. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique marche très très bien quand on sait pourquoi on l'utilise, à qui il s'adresse et quel type de contenu on va vouloir faire passer à l'intérieur. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas tant parce que, j'allais dire, les producteurs de contenu numérique en ont besoin, c'est parce que ça coûte beaucoup d'argent de produire des contenus numériques, et le mieux ils sont designés et affûtés au début, plus ils sont économiquement viables à l'arrivée, et plus ils ont matière, s'ils ont bien été pensés, à devenir évolutifs et durables. Parce que le numérique, encore une fois, c'est pas du one shot. Et surtout que je rappelle que le numérique a un enjeu carbone important aujourd'hui, donc quitte à créer du numérique, autant qu'il dure. Donc l'idée de créer des dispositifs de numérisation patrimoniale, c'est bien, mais autant les rendre tout de suite bien construits pour qu'ils puissent évoluer, être impactants et qu'on puisse comme ça éviter de réinjecter de l'argent systématiquement ou d'abandonner. On a découvert dans pas mal de départements, de régions et de villes des projets qui ont existé, qui ont été lancés et qui au bout de 6 mois, 1 an, ont été abandonnés en fait et n'ont plus eu l'impact escompté, ont été mis dans des étagères ou ont été vraiment laissés pour compte. Et ça, Pardonnez-moi, mais bon, quand on est dans le public, c'est le contribuable qui paye. Quand on est dans le privé qui paye. Mais encore une fois, je pense que même si on peut considérer que l'argent, c'est important aussi de ne pas le dépenser n'importe comment. Et je pense que bien penser le projet numérique permet de bien numériser ses patrimoines et de les rendre durables et leur assurer une longue vie évolutive. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces deux hémisphères. Un où on forme, on sensibilise, et un où on accompagne les projets et on les rend durables, évolutifs et les plus impactants possibles, le plus longtemps possible.
Satellite. Ce que je veux dire là, c'est un peu des clichés, mais souvent le côté héritage patrimoine, on s'imagine volontiers que ça va plus parler à des personnes un peu plus âgées, notamment bah, quand on commence à être un peu plus propriétaire ou attaché à un endroit. Là où à l'inverse, la technologie, on imagine ça plus volontiers que ça parle à des personnes un peu plus jeunes, même si c'est de moins en moins vrai. Et vous, votre entreprise lit les deux. Est-ce que cette liaison par rapport au public se fait facilement? Est-ce que vous arrivez bien à concilier des personnes de différents horizons?
Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le patrimoine, je dirais les patrimoines, j'insiste, hein, bâtis, naturels, immatériels, industriels, peuvent devenir, s'ils sont bien utilisés et j'allais dire transcrit dans le bon outil numérique pour la bonne cible, peuvent devenir des merveilleux outils au service de la découverte, de l'apprentissage et de l'attachement à un territoire. Et je le dis aussi pour les jeunes publics, c'est-à-dire si vous donnez un jeu, je prends l'exemple d'un jeu, on a un de nos partenaires dans le cluster Pro Heritech qui s'appelle Heritage Studio, et qui crée des jeux géolocalisés d'enquête, vous savez, d'exploration du patrimoine où vous êtes, vous rentrez dans une enquête avec des indices, des énigmes à résoudre, et vous vous promenez dans la ville en temps réel, hein, et vous allez à la chasse aux indices dans les patrimoines, quels qu'ils soient, pour répondre à ces énigmes et découvrir à travers le jeu une ville tout entière. Ces outils-là, je les trouve très intéressant pour répondre à plusieurs enjeux à la fois et à permettre aussi à des enfants qui, la plupart du temps, j'en ai trois, je sais de quoi je parle, s'ennuient quand les grands font des visites de patrimoine traditionnel. Vous savez à quel point les personnes plus âgées, comme vous le disiez, dont je ne fais pas partie, je le précise, sont parfois dans la découverte d'adultes, donc avec effectivement la lecture des cartels. Mais les enfants, ils s'ennuient profondément quand ils sont avec vous. Ils ont besoin de construire leur relation au patrimoine différemment. Donc je pense en fait que la liaison, elle peut se faire comme ça. Alors ce n'est qu'un exemple, hein. C'est-à-dire que les moyens de médiation traditionnels, c'est très bien pour les adultes et pour les personnes, mais le numérique a la grosse faculté de pouvoir intéresser en même temps et au même moment des enfants qui vont pouvoir avoir le smartphone des parents dans la main et s'intéresser au patrimoine à travers le jeu. Et à travers l'usage qui est le plus fort chez eux, c'est l'utilisation des outils numériques. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle, mais on peut réfléchir à une convergence entre des outils qui peuvent être physiques et numériques, et réussir à réconcilier en fait, les familles.
Ça m'évoque une question. Est-ce que enfin, dans les discussions, que ce soit sur les forums au sein de votre entreprise, il y a l'idée éventuellement de collaborer ou développer des outils proches du jeu vidéo. Je m'explique parce qu'il y a notamment certains jeux, je pense au Assassin's Creed, qui développent énormément le côté historique, avec notamment des visites virtuelles qui fonctionnent très bien, qui plaisent aux jeunes. Et plus récemment, certains moteurs graphiques arrivent à créer des univers extrêmement photoréalistes. Ça a même été des sujets de débat. Personnellement, moi, ce que ça m'a évoqué quand j'ai vu ce jeu extrêmement photoréaliste, c'est pourquoi on ne pourrait pas faire de la visite virtuelle de lieux historiques comme c'était à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui se dessinerait éventuellement?
C'est même d'actualité. On a deux entreprises dans le cluster pro, une qui s'appelle le Studio Nova et l'autre qui s'appelle Hervé. Et ce sont deux sociétés qui travaillent sur des moteurs qui sont des moteurs de jeux vidéo, dont un s'appelle Unreal Engine. Aujourd'hui, sont reconstitués pour un certain nombre de gestionnaires de patrimoine des environnements tout entiers dans lesquels de plus en plus on avatarise la visite avec un niveau à la fois de réalisme mais de restitution scientifique et culturelle et patrimoniale au millimètre. dans des scènes de l'histoire qui ont réellement existé. Et j'en tiens pour compte une expérience qu'a récemment restituée Novae, qui est liée à une gare de déportation de la Seconde Guerre mondiale, qui a été reconstituée entièrement, et dans laquelle vous pouvez œuvrer et vous déplacer au moment, ce triste moment de l'histoire, mais pour mieux comprendre ce qui se passait autour de la gare, autour de ces personnages. Voilà, alors c'est des moments qui sont extrêmement saisissants de réalisme quand vous rentrez dans l'expérience, mais je pense que c'est de ça dont on doit parler aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité de ces plateformes de développement de jeux vidéo de devenir des outils ultra importants et performants pour reconstituer et montrer aussi aux jeunes, en l'occurrence, ce que ça a été, ce que ça a pu engendrer et la façon dont ça s'est passé. Et il n'y a rien de mieux pour ça, j'allais dire. Et on n'en est qu'au début pour aller dans votre sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils progressent et des séquences comme ça de l'histoire comme étant des témoignages et des façons aussi de resituer les choses et de les revivre. Moi, je pense qu'on est en face de quelque chose qui est phénoménal dans l'enseignement et l'apprentissage. Et je pense que c'est voilà, des studios comme ça et des entreprises comme celle-là qu'il faut encourager à la fois l'État, les régions, les projets de développement et d'encouragement économique. Voilà, ces start-up-là, elles doivent se développer, grandir, être prospères. Et encore une fois, ce sont la plupart du temps des studios français. C'est formidable.
Vous êtes actuellement sur un projet avec l'association Route des Villes d'Eau du Massif Central. Et ça vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est un dispositif, en fait, qui devrait réunir à travers le jeu sur smartphone plusieurs villes. Alors, l'objectif, c'est que ce soit toutes les routes des villes d'eau du Massif Central qui puissent en être l'objet. Il y en a 19. Mais déjà, de commencer avec une dizaine ou une quinzaine de villes qui pourraient se lancer dans cette dynamique, c'est l'objectif. Et l'idée de ce projet, effectivement, c'est qu'il puisse aboutir et la révolution en soi, puisqu'on parlait il y a quelques instants des développements technologiques qui se font au fur et à mesure, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui travaille au sein de la collectivité peut devenir demain, à travers une plateforme qui s'appelle Gaia World, qui a été développée par Heritage Studio, l'architecte de son propre jeu. On n'aurait plus besoin d'un prestataire de service à terme, mais d'être abonné à une plateforme qui nous permet nous-mêmes, vous, moi, n'importe lequel des participants de Luxe aujourd'hui, de devenir à terme architecte de son propre jeu grâce à une plateforme hyper ludique qui fonctionne avec des briques qu'on scénarise en fait pour créer un propre jeu sur smartphone. Et je peux vous dire, il y a 3 jours, j'étais avec le bêta-testeur de la Route des Villes d'Eau qui a utilisé la plateforme tout l'été et qui a fait une démonstration avec un jeu qu'il a produit lui-même en quelques semaines qui est absolument assourdissant en termes d'efficacité. Et je pense que là, on a mis le doigt sur quelque chose qui pourrait être très utile. Et voilà, pour conclure, Heritech, c'est vraiment ça aussi, c'est d'encourager les développements, de soutenir ces développements-là technologiques, d'encourager tous les gestionnaires de patrimoine à réfléchir à tout ça et à se pencher et à mieux les connaître. Et c'est pour ça qu'on est là. Et encore une fois, merci de me donner la parole aujourd'hui là-dessus. C'est vraiment un plaisir de pouvoir en parler à votre antenne.
Merci Eric Pacheco.
Avec plaisir, merci à vous, merci à toute l'équipe du chantier.
Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet lechantier.radio. C'était Moïse Grelier et Anthony Frutos pour la rédaction du chantier. Merci.
Merci.
Satellite. La radio autour de Luxe.